500 lois ont été transformées en décrets. 500 lois. Alors, comment on peut faire ça? Parce que les gens disent, une loi, un décret, c'est pareil. Non. Si on avait eu le CPE par décret, on n'aurait pas eu le temps de gagner contre. Villepin aurait fait le décret le 15 janvier et c'était terminé. C'est parce que c'était une loi qu'on a disposé de 2 mois pour se mobiliser contre le CPE. C'est-à-dire qu'il y a eu 2 navettes parlementaires, il y avait des amendements, l'opposition bataillait, les médias étaient obligés de refléter, etc., etc. Donc en 2 mois, parce que c'était une loi, on a empêché la loi sur le CPE de passer. Mais si c'est un décret, et non. Le décret, pouf, c'est l'exécutif qui le prend. Et vous n'avez pas de débat au Parlement. Alors si vous passez 500 lois du domaine de la loi au domaine du décret, vous faites un tour de passe-passe qui est exceptionnel pour ensuite changer les choses comme vous le voulez. Je vous fais remarquer que Fillon est un as de la chose, puisque dans sa loi Fillon sur les retraites en 2003, il avait dit que pour allonger le nombre d'annuités et passer à 41 ou à 42, ça ne serait pas par la loi, mais par décret. Il n'aurait comme seule obligation que de consulter les syndicats, ce qu'il fait, et quand il va avoir fini de le faire dans quelques jours, eh bien il fera un décret, et vous n'aurez pas de navette ni de débat au Parlement pour savoir pourquoi on passe à 41 ou 42 annuités. Ce n'est donc pas secondaire, la façon dont c'est fait dans les débats et dans le fonctionnement de notre République. Or, là, les députés et les sénateurs, en décembre, ils ont voté borgne. Parce que dans le nouveau code de 294 pages, il y avait 500 lois qui n'y étaient plus. Elles étaient enlevées pour passer en décret. Mais les députés et sénateurs n'avaient pas les décrets. On leur enlevait 500 lois, on disait que ça allait être des décrets, et ils ne savaient pas. Déjà, comme manipulation, c'est terrible. Mais surtout quand on sait que les recodificateurs ont pris comme philosophie d'enlever tous les chiffres de la loi pour les mettre dans des décrets en disant les chiffres, c'est mieux dans les décrets. Alors, bon, le port des charges. Alors, tout le monde m'a dit c'est pas grand-chose. C'est 25 kilos, on peut pas porter plus de 25 kilos dans la loi. Bah, c'est un chiffre. Hop, dans les décrets. Alors, dans la loi, ils ont mis quelque chose. Ils ont dit les femmes peuvent maintenant porter le même poids que les hommes au nom de l'égalité professionnelle homme-femme. Bienvenue, mesdames, vous pouvez porter le même poids que les hommes. Au moment où il n'y a plus de limite de poids dans la loi. Alors bon, ils l'ont mis dans les décrets. Ils peuvent décider que c'est plus élevé demain, c'est pas 25 kilos. D'accord? C'est important, parce que moi, quand je rentre dans un chantier, je vois des sacs de 100 kilos, je les fais évacuer en disant, demandez à un autre fournisseur, puis ramenez-moi des sacs de 25 kilos, je veux plus les voir. Bon, c'est la loi. Bon. Vous savez, c'est comme dans la loi, il y avait écrit, l'employeur est tenu d'informer le comité d'entreprise, et puis voilà la liste des informations qu'il doit lui donner. Bon, maintenant, il y a écrit, l'employeur informe le comité d'entreprise, et puis ce qu'il devait donner, c'est plus dans la loi, c'est dans les décrets. Donc, vous pouvez changer la liste quand vous voulez. Je vais donner un deuxième exemple, c'est sur les seuils sociaux. Sur les seuils sociaux, ils veulent les changer. C'est leur projet. Vous savez que Attali, par exemple, Attila, le rapport là, il a dit qu'il fallait porter à 100 le nombre de salariés pour qu'il y ait un comité d'entreprise, au lieu de 50. Bon, bah, demain, ça va arriver. Ou alors, les délégués du personnel, j'ai eu affaire à, comment il s'appelle, Roubaud, le gars de la CGPE, qui lui milite pour qu'il y ait des délégués du personnel à partir d'un seuil de 25 salariés, au lieu de 11. Bah, ça va arriver. Alors je vous le dis tout de suite, en dessous de 11 salariés, il y a 3 400 000 personnes en France. En dessous de 25 salariés, il y en a 5 800 000. 2 400 000 de plus qui peuvent ne pas avoir de délégués du personnel. C'est à droit constant ça? En tout cas, on va voir. Parce que tout ça, c'est pour le futur. Ça se dessine, n'est-ce pas? Et puis ensuite, après, bah, vous avez par exemple... la question des indemnités légales de licenciement. Hein, vous savez, Lionel Jospin avait fait passer les indemnités en le 7 mai d'ailleurs 2002. C'était selon l'application de la loi de modernisation sociale de janvier 2002. Il avait mis à 2 dixièmes de mois par année d'ancienneté. Avant, c'était 1 dixième. Oh, c'est pas terrible. Hein. Vous avez travaillé 10 ans pour un employeur, vous avez droit à 1 mois. Vous travaillez 20 ans, vous y avez droit à 2 mois. Alors, on est passé à 2 mois et 4 mois. Bon, une majoration. Fais attention aux majorations, hein, 1 dixième de mois, c'est pas beaucoup. Hein. Je dis ça parce que le Monde de janvier 2007, là, quand il a annoncé l'accord interprofessionnel qui a été signé, je vais en dire deux mots tout de suite, il a dit les indemnités légales au licenciement ont augmenté et sont d'un cinquième. Alors, depuis que je suis tout petit, j'ai un problème avec les fractions, je vous le dis, mais je passe sous votre contrôle. Hein, en passant de 2 dixièmes à 1 cinquième, est-ce vraiment une augmentation? Est-ce vraiment une augmentation? Mais c'était en une du Monde, hein, moi, je m'incline toujours devant le journal de référence. Hein. Bon, et toujours est-il que je vous raconte ça, c'est pour vous intéresser, parce que de toute façon, les chiffres, maintenant, c'est dans les décrets, et plus dans les lois, donc ça peut être modifié. Donc vous avez maintenant un système qui s'aggrave par ce qui est en train de se discuter, évidemment, parce qu'ils ont dit qu'ils faisaient tout ça pour permettre les évolutions futures du droit. Alors, par exemple, ils ont remplacé prud'homme par autorité judiciaire. Alors, vous pouvez passer les dossiers des tribunaux prud'homme aux tribunaux d'instance. Ils ont remplacé inspection du travail par autorité administrative. Vous pouvez passer de l'inspection du travail au directeur régional du travail. Ces décisions ne sont plus les mêmes. Hein. Ce que je vous dis tout de suite, on décide quelque chose au niveau, par exemple, je vais prendre un exemple. On peut parfois travailler plus de 48 heures si on a l'autorisation préalable de l'inspecteur. On peut travailler dans ce cas-là jusqu'à 60 heures. Pour moi, inspecteur, c'est sauvetage en mer et incendie de forêt. Pour mon directeur départemental, c'est défilé de haute couture. On n'a pas la même approche des circonstances exceptionnelles. Est-ce que je veux dire? Alors, les gens peuvent travailler à 60 heures dans les défilés de haute couture, ils donnent l'autorisation. Mais encore un DD, directeur départemental, c'est quelqu'un qui est issu du corps de l'inspection. Mais ils sont en train de supprimer l'échelon des DD dans la RGPP, d'accord, pour ceux qui connaissent la révision générale des politiques publiques, et pour qu'il n'y ait plus que les DR. Mais les DR, directeurs régionaux, ne sont pas issus du corps. Ils sont nommés par le haut comme des préfets, sans être passés par le corps de l'inspection. Ben, je vous dis tout de suite que les décisions ne sont plus de même nature. Vous avez remplacé inspection du travail par autorité administrative, vous avez changé toute une façon de décider, de procéder. Et je vais vous prendre l'exemple, puisque sur le droit du licenciement, qui est remise en cause en ce moment à l'Assemblée nationale, dans la loi sur la modernisation du marché du travail. Madame Parizeau voulait remplacer le droit du licenciement par la séparabilité. Elle dit c'est comme un divorce. Alors, sauf que c'est toujours le même qui part avec les meubles. Hein, on est d'accord. Bon. Et alors, là, il va y avoir des ruptures individuelles du contrat. Rupture individuelle du contrat. Et alors, vous aurez 15 jours quand vous aurez signé avec votre employeur pour réfléchir, parce qu'au bout de 15 jours, vous n'aurez plus de recours. Alors, ils se sont dit quand même c'est un peu grave. Alors, on va faire une homologation par l'autorité administrative. J'ai vu en direct mon directeur départemental fonctionner. Il a calculé 45 000 ruptures au niveau national par mois, individuelles 16 000 par économique. Bon, moi, ça va me faire sur Paris 850 plus, à peu près un millier de coups de tampon. Je crée un bureau. Il n'a pas pensé une seule seconde que derrière autorité administrative, ça pouvait être l'inspecteur qui connaît l'entreprise, qui sait dans quelles conditions la rupture s'est effectuée, que c'est déjà la dixième, que le gars se comporte comme un sagouin avec ses salariés, qu'on les fout dehors. Non, c'est le bureau à côté de du directeur départemental qui va tamponner, l'autorité administrative qui va tamponner pour homologuer les ruptures individuelles. Vous avez tout de suite la vision de la façon dont ça va se passer. Alors, je vous le dis tout de suite, hein. Ne vous engagez pas et ne conseillez à tout le monde de ne pas vous engager dans des ruptures individuelles. Vous êtes toujours dans une position plus faible que quand vous êtes avec du droit collectif. Parfois, vous pouvez vous en sortir, mais il faut avoir de la chance. Dans la grande majorité des cas, ce sera l'inverse. Et quand vous aurez signé, vous aurez 15 jours. Vous ne pourrez plus revenir sur votre signature. Comme chez Darty, hein. Vous avez acheté, mais sauf que là, il faut vous informer de vos droits, tout ça. Vous dites, oh mince, j'ai pas demandé mes heures supplémentaires qui m'a pas payé depuis 5 ans. Pas terminé. Parce que vous pourrez plus aller au prud'homme. Et dans la nouvelle loi qu'ils sont en train de préparer, ils ont rajouté un verrou de plus. C'est que, 6 mois après la signature du solde de tout compte, quand le contrat de travail est rompu, vous ne pourrez plus non plus aller au prud'homme. Dans tous les cas. Même si c'est un licenciement ordinaire. Ça sera, comme ils disent, libératoire pour l'employeur. Oui, je vous explique pourquoi. À cause de la lingère de Chamonix. La lingère de Chamonix. C'est une femme qui a commencé à bosser à 15 ans dans le grand hôtel de Chamonix pour le grand-père. Ensuite pour le père. Ensuite pour le fils. Et elle a arrêté à 65 ans. Et elle logeait dans l'hôtel. Elle commençait à 6 ou 7 heures du matin. Elle se couchait. Elle a monté se coucher à 10 heures. Elle faisait ça 7 jours sur 7 toute sa vie, la lingère Chamonix. Puis quand elle a eu 65 ans, en guise de reconnaissance, le fils, il a dit, dégage la chambre. Alors il y a quelqu'un qui a pris son dossier, qui a regardé tout ce qu'elle avait fait, qui a recueilli des témoignages, et qui a fait jouer, parce que c'était un dol global, une prescription trentenaire. Et elle a eu 660 000 euros de réparation pour toute sa vie. Mais Madame Parizeau, elle dit, ah ouais, mais ça insécurise les employeurs. Et pour ne pas insécuriser les employeurs, il faut mettre des verrous pour ne plus les gens puissent accéder au prud'homme. 15 jours quand vous signez individuellement, 6 mois quand ça reste du droit commun. Le but étant de faire que vous ne pouvez pas demander réparation de si vous avez été lésé pendant 5 ans, ils veulent réduire la prescription qui est de 5 ans pour la ramener à 1 ou 2 ans, comme c'est un chiffre et pourront le faire par décret. Et puis toutes les autres choses du même genre, ils pourront les accélérer avec la loi qui passe. Parce que maintenant on a des CDI, des CDD, pardon, sur le bureau de l'Assemblée en ce moment, des CDD, c'est-à-dire des contrats à durée déterminés, mais à terme incertain. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous êtes ingénieur ou cadre, travailler 36 mois, 18 mois ferme, et 18 mois aléatoires, selon la tâche, la mission ou l'objectif qui vous est fixé. Alors, vous avez les premiers 18 mois, et puis vous rentrez dans les autres 18 mois. Alors, si vous travaillez vite, ben, on vous vire plus tôt. Si vous ne travaillez pas vite, ben, on vous vire quand même, parce que vous ne travaillez pas vite. Mais vous avez peu de chance d'avoir une sécurité d'emploi pour les 18 mois qui viennent. C'est terrifiant d'arriver à sur 36 mois dans une vie pour calculer, pour projeter, pour se construire un avenir. C'est terrifiant du point de vue du caractère aléatoire. Jusqu'à présent, c'était limité à 18 mois, c'était déjà énorme et trop. Hein? Bon. Alors après, qu'est-ce qu'il y a encore dans cette loi? Vous avez la rupture contractuelle, vous avez la limite pour les prud'hommes. Ah oui, il va y avoir un plafond pour les indemnités de licenciement. Alors, dans ce pays où vous avez des retraites chapeaux, des stock options, des parachutes dorés pour les employeurs qui s'augmentent de 40% l'année dernière, on va mettre un plafond pour les indemnités de licenciement des salariés. C'est quand même pas n'importe quoi comme régression. Hein, la France n'a jamais été aussi riche, contrairement à ce que nous dit Bling Bling. Hein, les caisses sont pleines et débordent. La cagnotte privée n'a jamais été aussi immense. 105 milliards d'euros de plus pour le CAC 40 l'année dernière. Ils étaient à 86 milliards l'année d'avant, 100 milliards l'année d'avant, 86 milliards l'année d'avant, 66 l'année d'avant et 57 milliards en 2003. Ils ont fait la culbute en 5 ans. 5 ans. Selon Challenge, je m'abrite toujours derrière des journaux qui sont pas gauche, hein. Challenge dit que les 500 premières familles de ce pays ont gagné 80 milliards d'euros de plus l'année dernière que l'année d'avant. Madame Parizeau dit que la 273e, j'ai regardé. 500 premières. Quand vous regardez ça, 160 milliards pris au salaire pour les profits, 80 milliards pour les 500 premières familles, 105 milliards pour le CAC 40, 65 milliards donnés aux entreprises pour exonérer les cotisations sociales, hein, y compris le paquet fiscal avec les heures supplémentaires au mois d'août dernier. On rêve, ou plutôt on rêve pas, c'est un cauchemar. Je vous le dis tout de suite. Parce qu'avec tout cet argent, notre pays n'aurait pas de problème, ni dans ses hôpitaux, ni dans ses écoles, ni dans ses quartiers, ni dans ses équipements collectifs. On pourrait avoir la retraite à 60 ans pour tous. On pourrait absolument avoir les 35 heures et n'être pas obligé de faire des heures supplémentaires et travailler tous. Et on produirait ensemble tous plus dans ces conditions. Mais c'est pas le but, c'est pas le système. Le système va en sens inverse. C'est aspirer, siphonner le maximum de profits et pour ça, détruire le maximum de droits. Et le processus avec la loi de modernisation sociale va s'augmenter ensuite. Vous avez arrive, je ne vais pas le développer tous parce que ça fait tellement de choses déjà. Arrive la réduction des droits pour les syndicats. Arrive la réduction des droits pour les prud'hommes. Parce qu'ils ne veulent plus de prud'hommes. Madame Dati a supprimé 63 prud'hommes sur 237. Ils ne veulent plus de prud'hommes. Les élections qu'il pourrait y avoir en fin d'année pourraient être les dernières. Et à la fin, on va vous faire une société de quoi? Alors, il arrive quelque chose outre-Atlantique, c'est le multi-travail. Vous avez deux, trois travails, vous travaillez plus, comme ça vous arrivez à vous en sortir. Un travail principal, puis un travail annexe parce que votre salaire est trop bas. Alors, moi je vois ça à Paris, vous avez des gens, hein, qui sont des employés de banque de petit niveau et qui ne s'en sortent pas et qui vont le matin porter les journaux à 4 ou 5 heures du matin faire du portage. Hein, pour que arriver à s'en sortir parce qu'ils sont endettés, parce que le prix du loyer ne leur permet pas de vivre et que la hausse des prix ne leur permet pas de vivre. Alors, on dit maintenant, c'est la mode, c'est tendance. C'est tendance de quoi? C'est tendance d'esclavage, de recul, de travail forcé. C'est tendance de destruction de droits. Ça remet en cause les 10 heures maximales du travail et les 48 heures. Alors, mais d'ailleurs, comment on les contrôle? Ces multi-travailleurs. Ah, en principe, les 10 heures s'appliquent à eux. Les 48 heures s'appliquent à eux. Alors, on me dit parfois, mais... Comment on contrôle ça? C'est dur. C'est l'employeur principal, c'est-à-dire celui qui fait plus d'heures, qui doit s'assurer que le salarié ne dépasse pas les 10 heures par jour et les 48 heures maximales. Sinon, il est responsable. Monsieur, je vais vous dresser un procès-verbal pour que vous envoyez devant le juge et qu'il vous sanctionne parce que le multi-employeur qui travaille pour trois boulots, vous n'êtes pas assuré qu'il ne faisait pas plus de 10 heures et pas plus de 48 heures. Mais quand on en est là, toutes les règles se délitent parce que les gens ne peuvent pas vivre. Enfin, quand même, il y a un domaine où il y a une qualification, où il y a un rapport entre sa vie et son métier, quand même. On ne peut pas faire... Il y a tellement de gens qui souffrent dans leur boulot, ça c'est vrai. Il y en a 10, 15, 20% pour lesquels le métier correspond à leur aspiration, qui sont bien dans leur métier. Je peux vous dire, moi je suis bien dans mon métier, inspecteur du travail. Mais c'est une minorité de gens qui sont dans cette situation-là. Quand vous êtes employé dans un quick... que vous souffrez pour faire des ménages, il y a 333 000 nettoyeurs en France, hein. Ils sont dans les bureaux avant 6h du matin et dans les bureaux après 22h le soir. Et ils passent l'après-midi chez moi dans le deuxième arrondissement pour nettoyer au milieu de la journée. Bon. Et donc, quand vous avez cette situation-là pour des salaires si bas, c'est une chose aberrante dans une société qui fait de telles marges de profit. Après, on va nous dire mondialisation. Ben, elle a bon dos, la mondialisation. Parce que la mondialisation, elle n'explique rien dans la restauration. Il y a 800 000 personnes qui travaillent dans la restauration, ils ne sont pas en concurrence avec le commis cuisine chinois ou avec le plongeur du fond du restaurant indien. Hein? Et pourtant, c'est là qu'il y a le plus de précarité, qu'il y a le salaire les plus bas, qu'il y a le turnover le plus important, qu'il y a le boulot le plus dégueulasse. Et alors, ils disent, on n'arrive pas à trouver des jeunes pour bosser. C'est leur faute! C'est leur faute! Et après, on dit, ah, les gens veulent pas bosser, on va les sanctionner. Alors, un chômeur, s'il n'accepte pas de faire 200 km et de perdre jusqu'à 70%, enfin, d'arriver à 70% de son salaire intérieur, on va le sanctionner aussi. Ce processus-là est un processus intolérable pour une république comme la nôtre et une société comme la nôtre. Moi, je fais pas toutes ces réunions pour expliquer ça, pour diffuser du pessimisme. Je vous le dis tout de suite. C'est pour diffuser l'optimisme. Parce qu'il faut comprendre ça comme nous avons pu comprendre dans le temps ce qu'était le TCE. Il faut comprendre l'ampleur de ce qu'il y a à la hauteur de la menace qui existe pour pouvoir s'y opposer. Et moi, je pense que ça se prend de front dans la société. Je suis ceux qui pensent optimiste, vous penserez ce que vous voulez, que bling bling, il tiendra pas 5 ans. Et que tout ce qui est en train de s'abattre sur nous, ça va s'accumuler. C'est un choc trop grand pour une société. Et normalement, une société, quand elle a un choc comme ça, c'est comme un corps, il suscite des anticorps pour se défendre. Et qu'on doit pouvoir restaurer du droit, restaurer une défense et une sanction d'un droit protecteur pour les salariés. En tout cas, c'est pour ça que je milite, c'est pour ça que je vous parle ce soir et que je vous remercie de votre attention.